おかしいおかしい。おかしい。
Bonsoir. Clôture ce mercredi à Kinshasa des travaux de la table ronde économique gouvernement secteur privé. Pourquoi l'organisation de ces assises et comment mettre en pratique les recommandations issues de cette table ronde? C'est le thème de l'émission Dialogue entre Congolais de ce mercredi 10 septembre 2008. Au total, 286 résolutions ont été adoptées par les participants à cette table ronde et parmi les plus importantes résolutions adoptées, les participants ont proposé que désormais, l'État congolais perçoive des taxes dans l'économie informelle, car cette économie représenterait, selon certains experts, 80% de l'économie de la RDC, alors que ce sont les 20% de l'économie formelle restante qui paierait la plus grande partie des taxes à l'État. Et pour passer au peine fin à l'économie congolaise, cette table ronde s'est basée sur l'état de lieu de l'économie congolaise et pistes de solutions études qu'avait menée la Fédération des entreprises du Congo FEC. Nous avons ce soir trois invités pour en parler. Bavon Samputu, directeur de cabinet du ministre de l'économie et commerce. Polycarpe Ndibito, président de la Fédération des entreprises du Congo, section de Butembo, Lubero, Nord-Kivu. Et Lemso Kamwanya, analyste économique, qui intervient au téléphone. Les réactions des auditeurs, nous en avons déjà quelques-unes. Mouyou du Katanga encourage cette initiative et voudrait savoir si l'on mettra sur pied une commission de suivi pour l'application des recommandations qui sortiront de cette table ronde. Avis que ne partage pas Jacques Zalabo d'Ifiro en province orientale, qui pense pour sa part que toutes ces recommandations resteront lettre morte. Enfin, pour Émile Diowo Omesumu, étudiant à l'université de Kinshasa, la tenue d'assises qui n'aboutit à rien demande beaucoup de moyens financiers, alors qu'avec cet argent, on pouvait penser aux enseignants.
Dialogue entre Congolais. Si vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Quelles sont les grandes recommandations issues de cette table ronde économique? Notre confrère Nazem Koko a couvert la clôture de ces assises et nous en donne une idée.
La première de toutes, la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national auquel doit veiller le gouvernement. Ensuite, les réformes législatives, parmi lesquelles l'adhésion de la RDC à l'OADA, l'effectivité des tribunaux du commerce et des chambres d'arbitrage, la mise en application des voies de recours fiables et le respect des procédures, ainsi que la réduction en 30 jours de la durée de création d'une société à responsabilité limitée. Les participants ont aussi plaidé pour la libéralisation du secteur des assurances et la retraite obligatoire des travailleurs à 65 ans. Sur le plan de la fiscalité, les séminaristes ont recommandé la mise en place d'une fiscalité incitative pour encourager le secteur prioritaire tel l'agroalimentaire, le respect scrupuleux du décret créant le guichet unique et les mesures d'encadrement, ainsi que la fiscalisation du secteur informel. Par ailleurs, la réhabilitation et la construction de routes d'intérêt prioritaire ont été vivement souhaitées, de même que l'actualisation et l'harmonisation des textes réglementant les télécommunications. En ce qui concerne l'agriculture, les participants ont plaidé pour la promulgation du code agricole et la mise en place des mécanismes de promotion des crédits agricoles à partir d'un fonds spécial de relance agricole. Ont été aussi recommandées la création des banques de proximité ainsi que la redynamisation et la capitalisation de la SOFIDE. Ces résolutions seront présentées au Conseil des ministres et après 6 mois est prévu le début d'évaluation par une commission mixte paritaire secteur public, secteur privé.
Merci beaucoup, Nazan Koko. Bonsoir, monsieur le directeur de cabinet.
Bonsoir, merci.
Vous vous appelez Bavon Samputu, donc vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'économie et commerce. Il y a déjà eu la rencontre Kabila Père et les opérateurs économiques, membres de la FEC, des concertations avec l'ancien ministre de l'économie, Émile Ngoï, le forum économique organisé en 2004. Pourquoi cette énième table ronde alors qu'on ne sait toujours pas grand-chose de l'application des précédentes recommandations?
Merci, M. Jones, pour la question. À l'introduction de cette émission, vous l'avez si bien relevé. Pour le grand République, il s'agit de répondre à une préoccupation exprimée par la FEC à travers un document intitulé « État des lieux de l'économie congolaise, problèmes et pistes de solutions pour relancer l'économie nationale ». si vous vous rendez compte, il s'agit pour le gouvernement de donner une réponse adéquate aux préoccupations données par l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique ici, il s'agit du partenaire prévu par excellence du gouvernement dans la conduite de l'économie nationale. Et quand nous parlons de l'Afrique, vous vous rendez compte immédiatement qu'il s'agit d'une association patronale qui regorge dans son sein plusieurs opérateurs économiques évoluant dans plus d'une activité. Et avoir en face de nous un partenaire comme la FEC qui a eu à faire des études suffisamment exhaustives pour diagnostiquer les maux qui rongent du code national et donner une esquisse de pistes de solutions, vous vous rendez compte avec moi que pour le gouvernement de la République, il était question, il était interpellé pour réserver, pour constituer une plateforme pour qu'ils pouvaient les réunir, sauf que cette fois-ci, voilà, l'a étendu aussi à l'ANEP, à la Fondation nationale des entreprises publiques et à la société civile, pour qu'ensemble nous puissions évaluer les diagnostics faits par la FEC et ensemble, de manière concertée, nous insistons beaucoup là-dessus, de manière concertée, pour dégager les pistes pour pouvoir booster l'économie nationale vers de l'avenir meilleur et donner suffisamment de l'emploi à nos populations.
Mais nous allons revenir à vous, mais ce ne serait pas la première fois. Nous avons également dans ce studio M. Polycarpe Ndibito. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fédération des entreprises du Congo, section de Boutembo, Lubero, Nord Kivu.
Tout à fait.
Quand on connaît l'importance des hommes d'affaires du Nord Kivu, nous recevons quelqu'un qui peut bien parler au nom des opérateurs économiques qui agissent de façon importante dans ce pays.
On va essayer.
Voilà, donc je vous repose la même question. Est-ce que vous trouvez que c'était nécessaire qu'il y ait une nouvelle table ronde économique alors qu'il y en a eu déjà tant d'autres dans ce pays sans beaucoup de résultats?
Mais écoutez, la science elle a toujours dit que la répétition est sa mère. Donc la répétition dans les activités est pratiquement la mère de toutes les sciences du monde. C'est dit qu'il fallait une table ronde économique en plus. Parce que, vous comprenez, toutes les tables rondes qui se sont tenues, notamment les forums dont vous avez fait allusion, il y a eu des colloques, tout ça. Mais quant à l'exécution, il n'y a pas eu de grandes réalisations. C'est ici que la Chambre de commerce, donc la Fédération des entreprises du Congo, a eu le souci de rentrer en profondeur sur cette question. Il fallait l'examiner avec les décideurs politiques, notamment le gouvernement. C'est à ce titre que nous avons fait l'expertise de l'année d'exécution de tous ces problèmes qui bloquaient carrément la relance économique dans notre pays. Et nous avons fait un condensé qui a été présenté par la FEC. C'est à la suite de ce condensé que, heureusement, le président de la République et le gouvernement, donc le premier ministre, ils ont pris la décision de cette table ronde. Donc, pour nous, la FEC, c'est le problème moteur, c'est l'exécution. Donc, on peut, comme vous l'avez si bien dit, on peut toujours créer, monter, couler à force des grandes recommandations, mais s'il n'y a pas un cadre permanent de l'exécution de toutes ces recommandations, c'est dire qu'on ne peut jamais monter l'économie fiable qui peut être promoteur de l'emploi, qui peut subvenir aux besoins primaires de toute notre population. C'est là la grande question et la problématique à laquelle il fallait. Heureusement que nous avons travaillé là-dessus.
Voilà, donc c'est la problématique, la grande problématique également de cette émission, l'application justement de ces recommandations ou résolutions. Nous avons également en ligne téléphonique notre analyste économique, M. Lem Kamania. Bonsoir.
Bonsoir.
Était-ce nécessaire qu'il y ait une énième table ronde économique dans ce pays?
Ce qu'on dirait, c'est concerté, c'est pas une mauvaise chose, mais tant que c'est répétitif et que, avec le temps qui passe, on se rend compte que toutes les recommandations qui sont formulées à l'issue des forums précédents ou des tables rondes semblables ne sont pas mises en œuvre, les gens se demanderaient pourquoi une énième table ronde. L'essentiel, c'est que ce n'est pas de se concerter. L'essentiel, c'est de vivre. On prend des mesures, on les met en œuvre et on se retrouve pour évaluer. Si on veut toujours faire des tables rondes pour dire voilà ce qu'il faut faire, on rentre encore une année après et voilà ce qu'il faut faire, c'est concerter, sans avancement, je crois que nous sommes en train de tourner en rond. Cette table ronde, elle devrait être là pour évaluer, par exemple, les recommandations qui avaient été formulées au cours du forum de 2004, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait et quelles mesures on peut prendre pour accélérer les réformes qui devraient être mises en œuvre. Mais si on doit encore se rencontrer pour dire voici nos recommandations, tout le monde connaît que dans ce pays, l'option qui a été prise est une option de libéralisation économique où on considère que c'est le secteur privé qui est le moteur de notre développement, le secteur privé qui doit créer les emplois. L'État doit organiser les règles du jeu et faciliter les comptes au secteur privé. L'AFEC avait soumis en son temps un document qui montrait quels sont les préalables, quelles sont les conditions que l'État devrait remplir, quelles sont les réformes que l'État devrait engager pour encourager, inciter et pousser les services privés. On devrait se mettre plutôt à évaluer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait.
Merci.
Le thème tel qu'il a été choisi, il était bon, mais quand on commence les débuts de travaux, on se dit, on soumet encore. C'est comme si on vient à peine de commencer et pourtant par le passé, il y a eu des choses qui se sont dites en ce sens-là. Alors, c'est concerté, ce n'est pas mauvais, mais voyons plutôt où est-ce qu'on va, c'est que tout ce qu'on soumet comme doléance à la table de l'État.
Oui, rapidement, monsieur le directeur du cabinet.
Monsieur Jean, nous voulons ici sécuriser l'intervenant de tout à l'heure et nos différents auditeurs. Quand nous disons table ronde économique, plateforme, gouvernement, secteur privé, nous voulons rassurer les uns les autres en disant ceci. Que pour arriver aux résolutions telles que vous les avez suivies ce soir, il y a eu des travaux préliminaires. Et dans les travaux préliminaires, nous avions eu à apprécier, à revisiter tout ce qui a été fait à ces jours, notamment le FENAT 2004. Nous avons évalué le FENAT dans les travaux préliminaires.
Le FENAT, c'est quoi?
Le Forum National Économique est organisé en 2004 par le ministère de l'Économie. Nous avons évalué, nous avons revisité les résolutions du FENAT, nous avons apprécié les résolutions qui ont été exécutées et celles qui n'ont pas été exécutées et celles qui sont en cours d'exécution pour qu'en définitive, lors de la restitution des travaux de la table ronde, nous puissions nous cramponner sur ce qui était en cours et sur ce qui doit être exécuté. Nous voulons rassurer l'intervenant de tout à l'heure et les différents auditeurs pour dire que le gouvernement, via les ministères de l'économie, a eu à apprécier tout ce qui a été fait et à jeter les bases d'une nouvelle dynamique de concertation avec le secteur privé. Nous voulons insister là-dessus en disant que la table ronde économique sort des sentiers battus. Nous insistons en disant que c'est de manière concertée avec le secteur privé. Et quand nous disons de manière concertée, nous disons par là beaucoup de choses. Ça signifie quoi en définitive, monsieur le journaliste? Que demain après-demain, nous allons ensemble, de manière concertée, de manière participative avec le secteur privé, mettre en place, comme l'a si bien dit le ministre de l'économie cet après-midi, un monitoring d'évaluation, d'exécution.
Monsieur le directeur de cabinet, est-ce que la table ronde n'aurait pas joué un rôle extrêmement important pour l'économie congolaise si vous analysiez les moyens urgents, les mesures urgentes, par exemple pour pouvoir permettre l'évacuation des produits vivriers qui pourrissent au Bandundu, dans l'Équateur par exemple?
Non, nous voulons vous rassurer que la table ronde économique, dans les travaux préliminaires, nous insistons beaucoup là-dessus. En analysant les documents qui étaient présentés au gouvernement par la Fédération des entreprises Congo, nous avions eu, en l'extirpant, en les décortiquant, à éclater les préoccupations en 6 commissions climatiques. Et là-dedans, il y a une commission dite infrastructure, télécommunications et énergie. Dans cette commission, nous avons passé en revue tout ce qu'il y a comme contrainte.
Oui, ça fait en revue, bien sûr, mais les mesures urgentes, certains
attendez, monsieur le geste, nous avons passé en revue tout ce qu'il y a comme contrainte infrastructurelle. Et dans les propositions qui ont été faites, nous avons passé en revue le point, les pistes urgentes idéales pour créer la fluidité dans le comportement des opérateurs économiques, créer la connectivité entre les agents économiques, pour pouvoir permettre l'évacuation de produits de centres de production vers les centres de consommation.
Merci, on verra ça dans la deuxième partie de cette émission. Monsieur Divita, vous avez quelque chose à ajouter avant que nous passions dans la partie la plus importante?
Bon, écoutez, il n'y a bien pas grand-chose à ajouter.
Divito.
Oui, il n'y a pas de problème. C'est notre politique de Divita, c'est cela, oui. Donc, ce qui est très important, je l'ai dit, en dehors de la concertation, c'est cette volonté de créer un cadre permanent. C'est-à-dire que on prend les décisions, on les coule à terme de référence de la conférence, la table ronde, mais également il y aura un cadre permanent de suivi. C'est cette volonté politique. Une fois le gouvernement, cette fois-ci, il accepte que chaque fois, suivant le monitoring qu'il a si bien dit mon collègue directeur de cabinet, c'est-à-dire que chaque fois, nous allons nous rencontrer, gouvernement et secteur privé, y compris les scientifiques, tout ça, pour évaluer ce qui a été fait. Et c'est ce qui est plus important, parce que s'il n'y a pas évaluation, on ne peut jamais s'en sortir.
Voilà. Monsieur le directeur de cabinet, il y a une question d'un auditeur qui nous suit en ce moment, qui demande qu'est-ce qui fait que la RDC a importé même les haricots de la Chine pendant qu'il y, a une, il y en a une grande quantité à Goma.
Oui, c'est très simple à répondre, monsieur le journaliste. Vous connaissez les contraintes infrastructurelles qui minent la connectivité entre les opérateurs économiques. Vous prenez Goma, qui est pratiquement à 2000 km de Kinshasa, Kinshasa qui régorge au minimum 8 millions d'habitants, il se pose véritablement un problème de connexion de connectivité entre les différents enjeux économiques, entre les centres de production et les centres de consommation.
Mais il faut le faciliter.
Oui, justement. Non,
par rapport à la Chine où c'est à plus de 7000 kilomètres.
La compétitivité d'une production, monsieur le journaliste, intègre le facteur coût de transport. Dès l'instant où la production elle-même rencontre des contraintes infrastructurelles, des contraintes d'évacuation, le rendement, s'il n'est pas suffisamment compétitif, vous savez, monsieur le journaliste, un produit venant de la Chine, vous le savez, c'est très bien, les Chinois disposant d'une grande productivité d'abord et d'une grande production, disposant d'une grande compétitivité au travail, naturellement, un produit venant de la Chine, arrivé à Kinshasa, peut être rendu à un prix plus compétitif qu'un produit, excusez-moi la réflexion, produit localement,
en amont,
entouré des différentes contraintes infrastructurelles telles que nous avons à les identifier.
Merci, on va revenir à vous. Nous allons revenir à vous, monsieur Indivito, mais d'abord passons à la deuxième partie de cette émission. Donc, clôture ce mercredi à Kinshasa des travaux de la table ronde économique gouvernement secteur privé. Comment mettre en pratique les recommandations issues de cette table ronde? C'est la deuxième partie du magazine d'actualité politique Dialogue entre Congolais de ce soir. Mais avant de la poursuivre, suivez d'abord le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles sont les garanties pour l'application de ces résolutions? Pour M. Albert Yuma, président national de la Fédération d'entreprises du Congo FEC, un comité de suivi sera mis en place pour l'application de ces résolutions. M. Albert Yuma est au micro de notre confrère Nazaire Nkoko.
Pour que cette réunion se différencie des précédentes, c'est qu'il y a un comité de suivi, d'évaluation du suivi des applications des mesures. Vous avez entendu que le gouvernement a adhéré à ce principe, et donc très rapidement, dès que le gouvernement aura adopté l'ensemble des mesures, de façon paritaire, nous allons mettre un comité de suivi pour l'exécution et l'évaluation de ces mesures. Nous voulons très rapidement, dès le prochain conseil des ministres, je crois que le ministre de l'économie l'a dit, il y a des mesures urgentes qui vont déjà être annoncées. Ce n'est pas une question de mois pour nous, c'est une question de jours et de semaines. Nous avons pour une fois débattu, comme je l'avais souhaité, sans tabou et sans préjugés, soit c'est déjà un très grand acquis.
Voilà, je reviens à vous, M. Lems Kamoyan. Je rappelle que vous êtes analyste économique, vous intervenez dans cette émission au téléphone. Monsieur Lems, il y a la question, naturellement, de l'application de ces résolutions qui se posent. D'après vous, quelles sont les garanties pour que cette fois-ci, ces résolutions puissent être mises en application dans les vécus quotidiens des Congolais, par exemple?
Oui, je ne voudrais pas être trop pessimiste. Pour moi, la première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Parce que si vous essayez de revoir,
l'ensemble des recommandations qui ont été prises, 98%, 9%, ce sont des mesures qui doivent être arrêtées par l'État, les réformes qui doivent être mises en œuvre par le gouvernement.
Quoi par exemple?
Bon, je prends un exemple banal. La FED demande qu'on puisse réduire à 30 jours le délai de création d'une entreprise. 30 jours, là, il faudrait que l'ensemble des services de l'État qui interviennent dans ce processus-là puissent faire en sorte que, lorsqu'on veut créer une entreprise, qu'il n'y ait pas assez de tracasseries, qu'il n'y ait pas assez de barrières. La FED parle, par exemple, de l'adhésion à l'OADA. Ça, c'est de la mise en place du tribunal de commerce. Toutes les mesures là qu'on a appelées 10 commandements, je ne sais pas quoi là, si vous voyez très bien, ce sont des réformes qui doivent être engagées par l'État. Aujourd'hui, mettre en place un cadre de concertation, tant qu'au niveau du gouvernement, avec le problème de coordination que nous connaissons, on n'est pas en mesure de prendre courageusement, de mettre courageusement des réformes en œuvre, à ce moment-là, ce cadre peut exister, mais il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui n'avancent pas, parce qu'il y a des réformes à effectuer dans le secteur judiciaire, il y a des réformes à effectuer dans le secteur de l'administration, il y a des réformes à effectuer dans les différents ministères. Il faudrait qu'il y ait au niveau du gouvernement un véritable engagement, que des ministres prennent les dossiers entre leurs mains, qu'au niveau du ministère de la Justice, qu'au niveau du ministère de l'Économie, qu'au niveau de tous ces ministères qui sont impliqués dans les différentes réformes, au niveau du ministère du Plan, avec l'ANAPI qui a mis en place un guichet de des entreprises, il faudrait que ce service de l'État soit mis à profit pour que les différentes recommandations qui ont été prises et qui relèvent à chaque gouvernement soient appliquées. Si on ne les fait pas, on va prendre des recommandations, on va les mettre dans les tiroirs, quand même on dit que le gouvernement va les adopter. Je veux bien, prenons, il y a un conseil des ministres, on dit que le gouvernement a adopté ces mesures-là. Quelqu'un qui veut créer une entreprise, est-ce que dans 30 jours, il verra son entreprise créée? Quelqu'un qui veut créer une SRL, est-ce qu'il aura les décrets présidentiels dans 30 jours? Je crois que c'est à ce niveau-là où il faut réfléchir. Si on doit mettre fin aux tracasseries, si on doit adhérer à l'OADA, ce n'est pas avec un cas de concertation avec des privés qui n'agissent pas sur les mécanismes publics.
Et qu'est-ce qu'il faut?
Il y a une lourdeur au niveau de la mise en œuvre des réformes par les gouvernements.
Et qu'est-ce qu'il faut?
La transformation de la vie publique où il y a encore des pesanteurs qui font que la plupart des recommandations risquent de rester lettre morte.
Même Samania?
Oui, je vous écoute.
Et qu'est-ce qu'il faut pour que cette lourdeur-là du gouvernement ou des institutions congolaises puisse disparaître et que finalement les réformes...
La première des choses, c'est une véritable volonté politique. Deuxièmement, les gouvernements prennent cet engagement. Et des trois, il faudrait que au niveau du gouvernement, qu'il y ait une coordination, qu'on se dise, voici les mesures qui ont été arrêtées, nous devons les mettre en œuvre et qu'on devra les évaluer au niveau du gouvernement. Le premier ministre, par exemple, il devra, sous les différents ministres qui sont concernés, à lui faire un rapport sur l'avancement. C'est un problème de changement. Prenez les cas de tracasserie. On doit diminuer les tracasseries, par exemple, au niveau de l'importation. Vous avez vu ici des gens s'opposer, par exemple, à la mise en place des guichets uniques au niveau des postes frontaliers. Mais comment arriver à changer ces mentalités-là? C'est la dynamique du changement qui doit être gérée. Et pour la gérer, il faut qu'il y ait un véritable engagement du gouvernement et une volonté politique affichée.
S'il vous plaît.
Si le gouvernement fonctionne tel qu'il le fait aujourd'hui, là, je reste vraiment sceptique à voir que la plupart de ces mesures puissent se réaliser dans un bref délai.
Merci beaucoup, Lent. Il y a un petit dérangement là-bas. Si vous pouvez éloigner un tout petit peu l'enfant pour juste un petit moment. Monsieur Polycarpe Ndivito, je rappelle que vous êtes président de la Fédération des entreprises du Congo, section de Boutembo-Lubero au Nord Kivu. Mais quelle garantie vous avez, j'imagine que vous avez quitté Boutembo pour venir participer à cette table ronde. Quelle garantie vous avez qu'aujourd'hui, ces recommandations, résolutions seront mises en application? Il y a par exemple Emile Diowo Omesumbu, qui est étudiant à l'université de Kinshasa, qui dit que la tenue d'assises qui n'aboutit à rien demande beaucoup de moyens financiers. Lui, il n'est pas optimiste. Et puis, il y a aussi Jacques Zala Bodissiro de la province orientale qui pense que toutes ces recommandations resteront lettres mortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des garanties?
Écoutez, il a si bien dit l'analyste. Je pense que il faut prendre en considération son argumentation parce que, effectivement, s'il n'y a pas une volonté politique, on ne peut pas s'en sortir. Comprenez par exemple.
Il y a aujourd'hui cette volonté politique, mais à part du gouvernement du Sénat.
Alors, la garantie, c'est quoi? Vous savez que dans les forums antérieurs, prenons en décembre 2004, hein, qu'est-ce qui s'était dit? Qu'on va faire la réforme, qu'on va respecter la réglementation en vigueur, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Moi, je viens de Boutembo. Il y a une réglementation. Un exemple, qu'on dit, il y a quatre services qui doivent opérer à l'importation, donc l'hygiène, la mer, l'OPIDA et l'OCC. Mais qu'est-ce qu'on constate? On va juste du service. Parfois même bête. L'armée est là. Donc, il y a d'autres services qui ne respectent pas. Il y a tout un décret présidentiel, s'il vous plaît, qui a force de loi, mais qui n'est pas respecté par ceux-là qui sont appelés à faire exécuter les décisions du gouvernement. Donc, c'est cela. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique, si l'impunité doit continuer, parce que c'est ça l'impunité, il y a des gens qui interviennent dans un secteur qui n'est pas le leur. Et on les laisse faire. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça n'ira jamais. Donc, la seule garantie est cette fois-ci qu'on dise, les opérateurs économiques, vous avez droit aussi au chapitre. C'est-à-dire que nous prenons une décision d'une façon concertée et à l'application, vous serez l'œil. Okay. Donc, nous serons là, donc on va tout chaque fois dénoncer. C'est cela notre rôle.
Vous n'avez pas encore un engagement ferme du gouvernement?
Oui, mais le gouvernement a déjà pris l'engagement. Vous n'avez pas suivi les discours du Premier ministre à l'ouverture du forum.
Merci beaucoup.
Même tout à l'heure, le ministre d'État à l'agriculture.
Merci.
Ils ont pris l'engagement ferme. Bon, on y croit encore une fois de plus, mais nous ne voulons pas qu'il soit. C'est pourquoi nous devons être dans ce cadre permanent.
Merci beaucoup. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'économie et du commerce, il y a plusieurs griefs qui ont été soulevés par les différents intervenants dans cette émission. Il y a par exemple l'individu qui dit que, par exemple, à Boutembo, dans les services d'importation, au lieu de 4 services, il y en a 18. Il y a absence de volonté politique, impunité. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que cette fois-ci, les instructions données par le gouvernement seront respectées? Qu'est-ce qui les prouve?
Merci, nous voudrions ici rassurer M. Lems, qui est intervenu tout à l'heure, et les différents auditeurs qui nous suivent présentement. De la volonté politique, nous insistons encore là-dessus en disant ceci. L'idée d'organiser cette table ronde économique, cette plateforme économique entre le gouvernement et le secteur privé, est partie d'une instruction de son excellence le Premier ministre en accord avec le chef de l'État.
Vous avez besoin d'une boussole économique, comme l'a dit
votre ministre. Nous beaucoup là-dessus. Déjà assez. Très haut niveau de responsabilité, il y a eu cet engagement, cette volonté d'organiser la table ronde économique. Et après l'instruction à ces très haut niveau de responsabilité, le ministère de l'économie s'est approprié les dossiers et a mis à contribution tout le ministère sectoriel.
Mais finalement, où est le plan économique du gouvernement? C'est comme si le gouvernement n'avait aucun plan économique.
Le programme économique
du gouvernement.
Nous insistons là-dessus, monsieur le journaliste.
Le ministre a dit que vous avez besoin d'une boussole économique.
Économique du gouvernement existe. Le plan économique du gouvernement existe. Nous insistons ici. Vous avez bien suivi le micro de l'économie. Les trois résolutions ici constituent une espèce d'additif, une espèce d'addendum à ce que le gouvernement est en train d'appliquer comme programme. Il y a des ajouts, il y a des correctifs pour booster l'économie nationale.
Quelle est la nouveauté avec les recommandations
faites la nouveauté dans cette table ronde? La nouveauté est très simple. Vous devez partir de la genèse de l'organisation de la table ronde. Nous disons, le gouvernement de la République s'est approprié un document venu de la FEC. Nous insistons beaucoup là-dessus. La FEC, c'est une association patronale qui régorge plus d'un opérateur économique évoluant dans plus d'un secteur d'activité. Et nous avons ici à nos côtés un représentant de la FEC qui vient de l'Est de Boutembo. Ça fait pour vous dire que le document qui est venu de la FEC, c'est un document qui a été élaboré avec les concours de tous les différents affiliés de la FEC et à tous les niveaux de responsabilité.
Mais c'est de votre côté, la volonté politique du gouvernement. Vous ne promettez pas des choses.
Non, monsieur le ministre, nous insistons beaucoup là-dessus. Quand nous disons volonté politique, nous insistons déjà avec l'engagement du Premier ministre, avec la contribution du gouvernement dans son ensemble. Nous insistons, les préoccupations de la FEC, nous en
parlez devant les micros, s'il vous plaît.
Les propositions en fait ont été éclatées en 6 commissions thématiques. Et ici, nous tenons à porter l'information des grands auditeurs qu'au moins 3 commissions ont été pilotées par les membres du gouvernement.
Voilà, on vous a compris.
Ça, c'est une grande appropriation des préoccupations exprimées par la FEC par
l'ensemble du gouvernement.
On vous a compris, M. le directeur de cabinet, M. Ndivito, vous êtes Polycarpe Ndivito, vous êtes président de la Fédération des entreprises du Congo, section de Butembo. Mais est-ce que vous avez également formulé des résolutions, des recommandations concernant la création d'une classe moyenne congolaise? Parce que lorsqu'on regarde bien ce qui opère dans les secteurs économiques en République démocratique du Congo, on a rien contre les étrangers, mais ce sont les étrangers. Il n'y a pas beaucoup de Congolais. Est-ce que vous avez pensé à cela? Les grossistes, parfois, ce sont des opérateurs économiques étrangers qui sont à la fois grossistes, demi-grossistes, détaillants. Est-ce que vous avez pensé à ça, des mesures pour encourager les Congolais à investir aussi?
Oui, tout à fait. Donc, c'est comme il a dit, bien sûr qu'il dit qu'ils ont un programme économique, mais c'est un programme qui... jusque-là, sur terrain, je m'excuse, il n'est pas visible. Peut-être que avec ce balisage que vient d'apporter la table ronde, ce programme va encore s'affirmer, se continuer sur terrain. En ce qui concerne cette préoccupation sur la classe moyenne des opérateurs économiques, c'est le souci de tout Congolais. C'est-à-dire que nous avions déjà critiqué cet état de choses. Parce que vous voyez que presque dans tous les secteurs de petit commerce, la plupart, ce sont les expatriés, pratiquement.
Pourquoi?
Mais c'est parce que la loi sur la propriété industrielle, c'est elle qui est encore vétuste. Elle est complètement déphasée. C'est pourquoi, d'ailleurs, parmi les recommandations de cette table ronde, nous avons envisagé la révision de cette loi rapidement. D'ailleurs, on va dire que déjà, il y a déjà un projet.
Et qu'est-ce que dit cette loi? Est-ce qu'il est permis à un opérateur économique d'être à la fois grossiste,
demi-grossiste? Comment ça se passe? C'est-à-dire que les expatriés, parce que, bon, je m'excuse, les opérateurs économiques, il n'y a pas...
C'est pas une question de xénophobie,
Je ne vais pas parler de cela. Nous, notre nationalité, ce sont les affaires. On peut être congolais, on peut être, c'est pas burundais, on peut être italien. L'essentiel est qu'on se rencontre sur une affaire. C'est ça le principe des affaires.
Pourquoi les Congolais sont absents?
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a des expatriés qui vont dans les pays occidentaux, ou même les pays asiatiques. Alors, ils vont là-bas, ils trouvent par exemple un bouton. Alors, ils viennent avec ce bouton à RDC, ils viennent malheureusement, ils signent un contrat avec le fabricant de ce bouton à l'extérieur, ils viennent au ministère de la petite et moyenne industrie, qui est en ajoutant le ministère de la PME. Alors, ce ministère, parce que la loi confirme que lorsqu'il y a un partenariat signé entre deux opérateurs économiques, donc prenons un chinois et celui-là. Maintenant, donc, ce bouton, il s'approprie ce bouton, il dit, écoutez, ce bouton, il dit, une marque est déposée pour la maison terre.
Et les Congolais ne peuvent pas le faire, vous, parce qu'il y avait des moyens.
Ça veut dire quoi? Maintenant, quand vous allez là-bas, vous arrivez en Chine ou en Europe, on vous dit, non, ce bouton, il appartient déjà à tel expatrié. Donc, vous n'avez plus le droit d'exporter. Et vous êtes bloqué carrément par la loi. C'est pourquoi il faut revoir cette loi pour qu'on puisse évoluer et créer une classe moyenne.
Voilà. Nous allons passer la parole également à l'ex-Lemp Kamonya, qui est analyste économique. La 6e édition du Doing Business, publiée par la Banque mondiale et la Société financière internationale, classe la RDC dernière dans le classement des pays où il est le plus facile de créer une entreprise. Donc, la RDC est le pays où il est le plus difficile de créer une entreprise. Comment l'expliquer, M. Lem Kamonya?
Oui, bon, ce classement, c'est-à-dire, on prend les cas quand un opérateur économique il veut créer une entreprise. Ça lui prend combien de jours? Dans certains pays comme le Sénégal, on vous dit on est pratiquement à 4, 5, maximum 7 jours. Mais quand on va dans notre pays, ça peut faire 155 jours pour créer une SPRL. Donc, quelqu'un qui vient pendant 5 mois pour avoir une procédure juridique, ça lui demande 5 mois. Imaginez-vous si c'est un étranger qui doit venir rester à l'hôtel. Aujourd'hui, on lui dit non, va à tel tribunal. Demain, on lui dit va à la NAPI. Après, demain, va à tel service. Pour avoir les numéros de commerce, ça lui demande 5 mois et 5 jours. À ce moment-là, on se dit, il y a un problème. C'est-à-dire, par an, si quelqu'un veut créer une entreprise, donc ça va demander deux entreprises pour les créer dans une année.
On s'est dit que dans ce pays, il y a tellement trop de formalités administratives, trop de tracasseries qui découragent les investisseurs. Quand ils veulent créer, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de formalités à remplir. Ça passe par beaucoup de choses qui n'est pas facile de commencer les affaires. Et ces classements, on les fait comment? On regarde. Ailleurs, ça prend combien de jours? Il y a des pays où ça prend un jour. Ça se termine là. Pour avoir un décret présidentiel, ça peut vous prendre pour une année, ça peut vous prendre une année. À ce moment-là, quand on fait ces classements, nous, on se retrouve 155 jours et il n'y a aucun pays au monde où pour créer une entreprise, ça prend 155 jours. C'est ainsi qu'on classe comme dernier dans les doing business. Donc, pour faire l'affaire au Congo, c'est vraiment plus pénible qu'ailleurs.
Merci beaucoup, Lems. Essayez de vous déplacer, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous capte plus très bien. Bonsoir, Sitim Poutou.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes, comme on le dit souvent ici, la porte-parole de nos auditeurs. Quelles sont leurs idées principales par rapport au thème de ce soir?
Voilà, je suis avec monsieur Kivu, Robert Bahomé, se demande pourquoi doit-on organiser fréquemment des tables rondes économiques alors que l'on n'en voit pas concrètement des résultats. Il cite le forum économique organisé en 2004 et il se demande à quoi cela a réellement abouti. De Bouni en province orientale, Baïndou Kassamé, il veut savoir quel peut être l'impact de toutes ces recommandations dans l'élaboration du budget 2009 et sur la vie socio-économique des Congolais. Pour sa part, Malonga Koubali de Bandunduzville se dit pessimiste et demande aux Congolais de ne pas faire confiance à ses assises parce qu'elles n'aboutiront à rien. Amouli Mugaruka de Goma au Nord Kivu veut connaître les recommandations et quand est-ce qu'elles seront appliquées. Enfin, un auditeur anonyme pose la question de savoir comment se porte aujourd'hui le partenariat public-privé. Il poursuit en disant que cette table ronde n'est pas la première du genre. Quelles garanties le gouvernement donne pour assurer la bonne application de toutes ces résolutions?
Voilà, merci beaucoup, Titi Mpoute. Merci également à nos auditeurs. Je me tourne vers vous, monsieur le directeur de cabinet du ministre du commerce et de l'économie et commerce. Qu'est-ce que vous répondez à Amouli Mugaruka du Goma Nord qui veut savoir quand est-ce que ces recommandations ou résolutions seront appliquées?
Oui, merci. Comme vous le savez si bien, il y a eu une table ronde économique qui a réuni le gouvernement et le secteur privé. Et du côté du gouvernement, et comme le ministre des Communes l'a si bien dit, lors de la restitution du rapport de la table ronde, il va devoir s'imposer du côté du gouvernement un monitoring pour pouvoir évaluer les différentes mesures, évaluer les différents intervenants qui vont devoir exécuter les différentes mesures et éventuellement mettre en place un timing.
Ça va prendre des conditions.
Oui, ici, nous allons juste demander aux différents auditeurs et aux différents intervenants qu'il s'agit aujourd'hui pour le gouvernement dans son ensemble de s'approprier les résolutions de la table ronde. Et comme le ministre d'État chargé de l'agriculture de Bandra l'a si bien dit, les résolutions vont devoir être discutées au niveau de la commission économique et technique du gouvernement et puis portées dans son ensemble au niveau du gouvernement. Et dès l'instant où le gouvernement se prononcera, il va devoir prendre possession des différents résultats et nous le savons et nous sommes convaincus que du côté du partenaire du gouvernement, à savoir la FEC, il va devoir certainement avoir des concertations à ce niveau-là. Merci. Pour qu'en ça nous puissions baliser, mettre en place de manière concertée un monitoring pour pouvoir apprécier les différentes l'évolution de l'exécution des différentes mesures.
Voilà, donc je me tourne maintenant vers vous, M. Polycarpe Ndibito. Il y a, par exemple, il y a un anonyme qui pose la question suivante. Comment se porte aujourd'hui le partenariat public-privé? Parce qu'on vous entend souvent, vous, les opérateurs économiques, dire qu'on vous taxe trop, alors que le secteur informel n'est pas taxé. Il vous fait concurrence, une concurrence déloyale. Comment se porte votre partenariat?
Oui, écoutez, c'est une question très pertinente parce que le partenariat, il est théorique, je peux le dire, parce que s'il n'y a pas un cadre de concertation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dialogue permanent, il y a un dialogue à titre informel entre le patronat et le gouvernement. Mais on aurait souhaité que ce dialogue soit perceptible dans les actes concrets.
C'est-à-dire
que, par exemple, on dit, écoutez, il y a il y a, par exemple, une route qui va être créée quelque part, et en ce concept, on dit tous les acteurs économiques du secteur, donc les entrepreneurs du secteur, de, secteur routier, il faut qu'ensemble, avec le ministre de TP, ensemble, ils décident de ce qu'il faut faire, laquelle route est prioritaire. Parce que parfois, nous voyons, on peut commencer une route que nous, opérateurs économiques, on considère par exemple tertiaire. Alors qu'il y a urgence, il y a une route qu'il faut commencer tout de suite là. Par exemple, pour le moment, nous savons que nous, à l'Est, le grand problème c'est quoi? C'est la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la paix, la sécurité elle n'est pas au rendez-vous.
C'est l'une des résolutions d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler. Donc pour nous, donc il faut être pragmatique. Nous, si nous sommes pris en consultation, à ce moment-là, nous pouvons insister, laisser cet objectif, aller d'abord vers la sécurité, parce que sans la sécurité, il n'y aura pas l'agriculture, il n'y aura pas de quoi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien.
Merci beaucoup, voilà. Monsieur Ndivito. L'EMS Kamwanya, que répondez-vous à Bayinduka Samuel de Bounia en province orientale, qui veut connaître l'impact de toutes ces résolutions, recommandations, quel pourrait être leur impact dans l'élaboration du budget 2009 et sur la vie socio-économique des Congolais? Est-ce que ça peut
oui,
améliorer
son ces recommandations sont appliquées, effectivement. Quel impact ça peut donner? Effectivement, les premiers soucis, c'est comme la table ronde a indiqué par Fontaine, c'est d'abord la croissance économique. On estime qu'il y aura un accroissement de la production, plus que le PIB augmente, ce qui fait que la part que l'État va prélever sur la production nationale en termes de recettes va aussi augmenter. On s'attend que l'État puisse augmenter ses ressources budgétaires et avec ça, il peut aussi améliorer son intervention au niveau social.
Mais c'est théorique,
et
c'est théorique.
Le deuxième impact, c'est on suppose qu'avec ces mesures, les privés seront suffisamment incités à créer des entreprises, à créer des emplois pour mettre fin au chômage et permettre à la plupart des Congolais de trouver des revenus.
Merci beaucoup.
Alors maintenant, il faut passer de ces domaines théoriques pour passer à la pratique et c'est là qu'il y a les hicks.
Monsieur le directeur du cabinet, il y a aussi la question en rapport avec les haricots incarcérés après être déclarés impropres à la consommation par l'Office congolais de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être en une minute, par rapport à ça?
Nous n'avons pas de commentaires particuliers. L'OCC a fait son rapport d'expertise. Les haricots ont été déclarés impropres à la consommation et ils ont été détruits.
Voilà. Donc, mais par rapport, comment allez-vous alors taxer, recueillir des taxes auprès du secteur informel? Parce que c'est l'une des grandes résolutions de ce forum.
Oui, monsieur le journaliste, pourquoi il y a informel ou expansion de l'informel? Expansion de l'informel, c'est aussi justement à cause de la pluralité de prélèvements de l'État, la pluralité de taxes, de la forte pression fiscale. Et si vous analysez suffisamment les résolutions telles qu'elles ont été énoncées, nous insistons sur l'allègement de la fiscalité, de la parafiscalité. Et dès qu'il y a allègement, dès que l'opérateur économique, l'investisseur s'aperçoit d'un certain allègement de prélèvements de l'État, naturellement, il va s'insérer dans les circuits formels de l'économie nationale.
Donc, vous reconnaissez par là que le gouvernement taxe trop les opérateurs économiques parce qu'ils s'en plaignent trop des taxes.
Nous, côté gouvernement, nous avons partagé l'analyse de l'AFEC. Nous sommes très modestes là-dessus. Nous avons partagé l'analyse de l'AFEC. Et nous, ensemble, nous insistons beaucoup. Ensemble, nous avons énoncer une résolution en rapport avec l'allègement de la fiscalité, de la parafiscalité.
Merci. Monsieur Ndivito,
oui,
l'opérateur économique.
Oui, et il ne faut pas mâcher les mots ici. C'est-à-dire que la fiscalité, la parafiscalité de notre pays, c'est ça qui a envoyé les opérateurs économiques dans les formels. C'est-à-dire qu'il y a trop de taxes, tellement que, vous voyez, je vous donne un exemple. À l'importation, dans certains pays, les pays environnants, c'est-à-dire on va au maximum jusqu'à 10% de la valeur ici. Mais dans notre pays, sur certains articles, nous allons même jusqu'à 100%. Et il y a des articles, la majorité, ça navigue entre 40 et 80% de la valeur ici pour quel pouvoir d'achat. Donc le gouvernement, il n'a même pas, il n'a pas pitié de la population. Les gens se lancent dans les formels.
Donc vous espérez que le gouvernement va alléger.
Mais si le gouvernement allège, on espère, s'il n'allège pas.
À hauteur de combien?
Mais il faut qu'ils reviennent, que la manivelle du gouvernement rentre dans les 10% pour qu'on soit compétitif par rapport à l'exportation du café, par exemple. Vous savez que tout notre café part par fraude vers l'Ouganda parce que l'Ouganda ne prend pas le café à l'exportation. Ne taxe pas le café à l'exportation.
Merci. Lems, un dernier mot en 15 secondes.
Ah oui, moi je pense que le problème est majeur, ce n'est pas seulement. Ça ne doit pas se limiter au niveau du gouvernement, mais il faut qu'on descende jusque sur le terrain au niveau de ceux-là qui doivent appliquer les lois et les recommandations prises par les gouvernements.
Merci
beaucoup. C'est bien au niveau du gouvernement, mais si ceux qui travaillent au côté ne le font pas, ça va rester encore les clamants.
Merci.
De manière concertée avec les associations patronales, ensemble, dans un cadre concerté, nous aurons à faire avancer beaucoup de choses dans notre pays.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Au revoir et à demain.